Et on a chanté que la croix, c'est par la croix que je suis sauvé, c'est par la croix que je... Vous savez, sans négliger l'œuvre de la croix, il faut savoir une chose, c'est que la croix nous permet de faire une chose, c'est d'entrer dans le royaume. Mais qu'après, ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux le dit, qu'il a ouvert par son sacrifice une voie nouvelle qui nous amène jusque devant le trône de Dieu. Autrement dit, mes frères et mes sœurs, vous êtes sauvés, mais ce n'est pas tout, quoi. Le salut, ça se ne résume pas uniquement dans « je suis sauvé, allez, tant mieux, tout va bien, quoi ». Non, le salut doit nous amener jusque devant le trône de Dieu. Il nous amène devant le trône de Dieu. Il a ouvert un chemin pour que nous puissions y aller, nous. Et qu'est-ce que ça implique, franchement, entre nous? Eh bien, ça implique un chemin de sanctification, un chemin de consécration. Parce que dans le cœur du Père, le désir, c'est de nous amener tous ensemble devant lui, devant le trône. Et moi, enfin, je ne sais pas comment vous revoyez ces temps d'adoration. Et c'est comme si je me trouvais devant le trône de Dieu, en fait. Et vous devez comprendre, mes frères et mes sœurs, que vous n'êtes pas appelés à rester juste « Ah oui, j'entre, et c'est bien, je suis là ». Mais il y a tout un chemin à accomplir pour nous trouver devant le trône de Dieu. Vous savez, je peux vous le dire, lorsqu'on sera devant lui, je peux vous dire qu'on sera vraiment en train de fléchir le genou. Parce que sa sainteté sera telle, sa gloire sera telle, qu'on ne pourra pas tenir sur nos pieds. On se trouvera à genoux devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Est-ce que vous comprenez que lorsque vous louez Dieu, lorsque vous venez adorer, vous venez pas juste remercier qu'il est votre sauveur, mais qu'il est le Dieu glorieux, le Dieu trois fois saint, vers lequel nous sommes amenés à aller vers lui, à nous approcher de lui. Il y a tout un chemin. Et dans le cœur du Père, il y a vraiment une volonté de nous amener ensemble devant le trône. Vous savez, mes frères, mes sœurs, ce qui va changer notre vie, c'est lorsque nous serons devant le trône. C'est lorsque nous trouvons devant le trône de Dieu. Ah, c'est vrai, le salut, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, ça m'a changé, forcément. Mais très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas en rester là. Très vite, j'ai compris une chose, c'est que le Père voulait faire de moi un vrai fils. C'est que le Père voulait faire de moi un vrai disciple. J'ai même bousculé mon pasteur, j'étais même pas encore baptisé, je dis je veux me former. Il m'a dit « Oh, tu vas trop vite, fais-toi baptiser d'abord. Ben, je veux servir. Ben, commence par laver la salle de l'église. » Ah, ça paraît fou ce qu'il m'a dit. Ben, ça ne m'a pas arrêté, on est allé laver la salle. On s'est fait baptiser. Un an plus tard, je suis allé le voir. Je veux me former, pasteur. Je veux aller à l'école biblique. Trop vite. Attends. J'ai rongé mes freins pendant une année. Au bout d'une année, je désespérais. Le pasteur m'appelle, il vient me voir à la maison. Il est temps que tu te formes maintenant. Est-ce que vous comprenez que Dieu veut nous amener plus loin dans le discipulat, dans une vrille de consécration? Et ce que nous vivons ici le dimanche, c'est quoi? C'est la réunion de famille. Moi, je ne vous considère pas juste comme des membres d'une assemblée. Nous sommes membres les uns les autres, un corps. Mais moi, ici, je considère, ici, vous êtes ma famille. Vous allez comprendre pourquoi aussi après, pourquoi je dis ça. Parce que moi, je n'ai plus de famille. De mon côté, tout le monde est parti. Je suis le dernier des Mohicans. C'est vrai. Parce que je sais que dans le cœur du Père, c'est de rassembler ses enfants et de faire la fête avec eux. Et vous savez, ma motivation première de venir ici le dimanche matin, c'est pas de prêcher. C'est pas uniquement. C'est d'être dans la présence du Père ensemble. Parce qu'ici, c'est la famille. Ici, c'est l'ADN de la famille de Betzalel. Je sais pas comment vous avez vécu vos fêtes, hein. Moi, j'étais hyper triste. Ça s'est pas bien passé. Tout le monde était malade. La grippe est venue infecter notre fête. La grippe est venue nous empêcher de vivre les choses comme on voulait les vivre, n'est-ce pas? Peut-être pas vous, mais chez nous, ça a été... D'accord? Et moi, j'ai vécu ça comme une vraie déchirure. Je peux vous le dire, j'ai mal vécu ces fêtes. Je les vis toujours mal, mais là, je les ai mal vécues. Pourquoi ? Parce qu'on voulait nous empêcher d'être ensemble. Ben, c'est Madame la grippe. Bon. Mais vous savez qu'il y a une chose que le diable ne veut pas, c'est que nous soyons ensemble. Allons-nous nous laisser nous diviser, nous séparer ? Moi, ce que je veux, c'est être ici. Ma vie est ici. Je peux vous dire que ça fait 14 ans déjà, Jacqueline. Un peu plus de 14 ans. Bon, bah, on se rajeunira. 14 ans, mais heureusement que je considère cela. Qu'est-ce qui nous tient en fait ensemble, malgré les difficultés ? C'est la famille. C'est quand on sait qu'on est dans le sein familial, ensemble. C'est ça qui me permet de tenir le coup. Parce que si je n'avais pas eu ça, je peux vous dire qu'il y a longtemps que j'aurais arrêté. Hein. Pourquoi je vous parle de la famille ? Parce qu'on va y venir. Vas-y, tu peux le mettre. Je suis désolé, je bouge beaucoup. Je vois, tu attrapes le vertige, Jean-François. Je vous parlais du syndrome du fils aîné. Vous savez, comme la grippe, il y a une maladie qui nous empêche de faire la fête. Le syndrome du fils aîné. Le fils lui dit, et vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Oh, combien de fois on a prêché là-dessus, combien de fois on en a parlé. Ben moi, j'ai pris un autre angle d'attaque. J'aime bien, vous savez, moi j'aime bien bousculer les choses à la manière de voir les choses. Cette histoire du fils qui demande son héritage, qui s'en va, il n'en a rien à faire de ce que le père veut, il fait ce qu'il a envie, le gars. Et puis, le voilà parti, il dilapide tout son héritage avec les prostituées. Bref, à un moment donné, il est dans le besoin, forcément, il se retrouve même à donner à manger aux cochons, pour un juif, vous imaginez. Et puis, il revient vers le père. Quelle belle image. L'image de ce que nous avons été, de ce que nous sommes encore parfois, encore aujourd'hui, des fils et des filles qui désobéissons, qui revenons dans la présence de Dieu. Et le Père court vers lui. Mais le Père ne reste pas là. Il lui dit, le fils dit, « Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit, « Écoutez ceci. Apportez vite la plus belle robe. » Tout de suite, le père le dit, il ne reste pas dans le parvis. Je l'amène dans la maison, là où je me tiens. Donnez-lui une belle robe. Et il faut bien sûr qu'il la mette sur lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort, voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ah, super, hein, belle histoire. Hein. Tout commence bien en fait. Hein. C'est-à-dire, on a préparé le repas de Noël. On a commencé à mettre la table. On a commencé à mettre la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et puis, paf, un truc arrive. Le truc qui arrive, c'est pas le truc, c'est quelqu'un arrive. Or, j'aime bien le or. C'est pas de l'or, monseigneur, hein, pas comme dans la folie des grandeurs. Hein. C'est l'or, or. Et ces deux lettres-là, elles signifient quelque chose de profond, mes frères et mes sœurs. C'est que parce que parfois, il y a l'or, cet or-là, qui vient bousculer la volonté de Dieu, qui vient bousculer le projet de Dieu que de se réjouir avec ses frères et ses sœurs. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. J'ai mis des petites choses en gras. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sors. Il le prie d'entrer. Mais il répondit à son père. Alors, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je ne veux rien dire, mais je me suis interrogé comment le gars peut avoir des amis, le fils aîné. C'est pareil, il a l'air d'être ultra. Vous ne trouvez pas dans son attitude quand même? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Toujours. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais s'il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici est mort, qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est quoi un syndrome? Tiens, pourquoi? Je vous explique un peu. Hein. En fait, j'étais en train de prier. Je méditais ce passage et ça me dit c'est un syndrome. Alors dans le temps, j'avais vu un film avec Robert Redford, le syndrome chinois, un truc comme ça. Enfin, l'histoire d'une centrale nucléaire qui avait pété aux États-Unis. Enfin bref. Et je me dis, mais c'est quoi un syndrome? Je dis, alors je vais aller me cultiver un petit peu, j'en ai encore besoin, hein, malgré mon jeune âge. Ensemble de signes de comportement, écoutez bien, révélateurs d'une situation jugée mauvaise. Un syndrome, ensemble de signes. Ça veut dire que quelqu'un qui a un syndrome, il a des signes. Des signes et des comportements qui sont révélateurs d'une situation mauvaise. Exemple, il est écrit que les signes apparaissent en même temps, simultanément, tout arrive en même temps, quoi. D'accord? Quand tu as la grippe, tu as la fièvre, le syndrome de la grippe, c'est la fièvre, c'est les courbatures, c'est de la toux, et il y a un mauvais caractère si tu n'aimes pas être malade. Le syndrome de glissement chez les personnes âgées, je sais parce que mon épouse m'en parlait souvent. Mon épouse qui a travaillé en gériatrie, elle me disait, tiens, il y a telle personne, elle est en train de partir. C'est un syndrome de glissement. Elle me parlait du syndrome de glissement. On parle du syndrome chromosomique. On parle de syndrome psychologique. Ça, c'est les psychos qui pourront en parler. Et puis, on peut parler de syndrome inflammatoire, de syndrome infectieux. Et permettez-moi donc d'inventer le syndrome du fils aîné. J'ai décidé de devenir inventeur. Je vais aller bientôt au concours Lépine. J'ai inventé le syndrome du fils aîné. C'est pour ça que j'ai mis Nono l'inventeur. Voilà, je vais me présenter comme ça, en chimiste. Le syndrome du fils aîné, en fait, c'est quelque chose qui pourrit la vie d'un homme ou d'une femme. Et c'est quelqu'un qui pourrit la vie de son entourage. La question est, ai-je le syndrome du fils aîné? Les signes, donc. Et avez-vous le syndrome? Purée, il commence bien l'année, Bruno. J'ai mis un barbu. Il se décoiffe. En général, le gars qui a le syndrome du fils aîné, il est barbu. J'ai décidé. C'est moi l'inventeur du syndrome du fils aîné. Voilà. Donc j'ai le droit d'inventer ce que je veux. Et je vous promets, à l'occasion, je la laisserai pousser. Le jour où ma femme m'autorisera. Donc, le syndrome, mais bien sûr, n'y a pas que les hommes, il y a les dames aussi, hein, à condition qu'elles soient barbues. Voici ce que j'ai noté. Désolé, je dois remettre mes lunettes. Le refus d'entrer. Alors, c'est rigolo parce que le gars, il entend de la musique, il entend des cris de réjouissance. Il entend les danses, Twist Again, etc. Mais il n'entre pas. Et alors, il appelle le serviteur pour savoir ce qui se passe. Moi, ça m'interpelle. Parce que moi, à sa place, je veux dire, ben, je suis un petit curieux. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père? J'y serais entré. Enfin, j'aurais au moins ouvert la porte, j'aurais dépassé la tête. avec ma barbe, et j'aurais regardé, et j'aurais dit, mais c'est quoi ? Que se passe-t-il ? Lui, déjà, il refuse d'entrer. Cet homme, il est capable d'entendre de loin, mais il est incapable de tendre dans la réalité du cœur du Père. C'est-à-dire qu'un des signes, mon frère, ma sœur, un des signes du syndrome du fils aîné, c'est l'incapacité d'entendre. L'incapacité d'entendre et de vouloir entrer du coup. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dureté de cœur qui est là, qui est liée à plein de choses. Et combien de croyants sont dans cette incapacité et passent par le serviteur pour connaître ? Parce que tu as la capacité d'entrer, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour connaître ce qui se passe à l'intérieur. Waouh ! Je répète, parce que tu as la capacité d'entrer, il te faudra quelqu'un pour t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Or, dans le cœur du Père, il veut te guérir de ce syndrome parce qu'il veut que tu y entres naturellement. Tu entends de la musique ? Entre. Tu entends des danses ? Entre. Sois curieux de venir trouver cette joie qu'il y a dans mon royaume. Et le Seigneur m'a dit, ainsi, plusieurs croyants vivent leur foi par procuration. Or, être disciple, mon frère et ma sœur, c'est que toi, tu y rentres. C'est pas que tu demandes, tiens, tu peux aller voir, Brandley, ce qui se passe chez les petits. Non, non, je déconne, je rigole. Vous comprenez ? La deuxième chose, la colère. Alors qu'il faudrait se réjouir, il se met en colère. Colère, pourquoi il se met en colère ? Moi, je me dis, dans un premier temps, bah, tiens, il est jaloux, le gars. Il se met en colère parce qu'on se réjouit du frère qui était allé délapider la moitié de l'héritage, quoi. Mais moi, je vais plus loin. Il est en colère parce que le père a fait le contraire de ce que lui aurait voulu qu'il fasse. Et combien de personnes, j'ai ajouté même le fils veut la sanction, le fils aîné veut la sanction. Il veut la punition, alors que le père veut la rédemption. Or, combien de croyants sont en colère contre les hommes ou contre l'autorité de l'Église ou contre Dieu, parce que les choses ne se passent pas comme eux l'auraient voulu. Tu as envie de savoir si tu as le syndrome du fils aîné, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu es capable d'entrer ? Et qu'est-ce que Dieu, quelle est ta réaction lorsque quelqu'un te dit non ? Pose-toi la question, hein, franchement, essentiel. Vous savez, je lisais en début de semaine, je méditais ces derniers temps, peut-être que j'en parlerai prochainement, je ne sais pas, on verra comment le Seigneur va conduire les choses. Dans Acte 16, Paul, il a eu le projet d'aller en Asie, prêcher l'évangile en Asie. Deux fois, il est empêché. Une fois, il est écrit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, et deuxième fois, il a dit non. Et puis, il a fallu même que le Macédonien lui apparaisse pour que Paul dise « on va aller là-bas ». Vous savez ce qui s'est passé ? Et je suis vraiment interpellé par ça en ce moment. Dieu donne la vision à Paul. Il lui dit, c'est à Paul qui dit, Macédonien, qu'il l'appelle. Paul, dans une vision, il est écrit. Vous savez ce qu'il est écrit tout de suite après. Suite à cette vision de Paul, nous décidâmes. On est passé d'un « je » à un « nous ». Et ces hommes, ces disciples, ont pris la décision ensemble sur un nom de Dieu. Deux noms de Dieu. Qu'ont-ils fait ? Ils ont eu la bonne réaction. Paul, il a reçu du Macédonien, on va suivre. Il n'y a ni colère, ni incompréhension de leur part. Il y a nous y allons parce que Dieu me le demande. Tu as envie de savoir vraiment si tu as le syndrome du fils aîné, vois et vois comment tu es lorsqu'on te dit non. Je peux vous dire qu'il y a du travail. Peut-être pas vous, hein, mais chez ma belle-mère, oui. Non, chez moi, bien sûr, je déconne, je rigole. Troisième, sentiment de perfection par rapport aux autres. Il est accusateur. Il va lui dire, voilà tant d'années que je te sers, Père, avec obéissance. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Mais quand ton fils, regardez, quand ton fils revient, il est sale, il a tout dilapidé, il a tout dépensé avec les prostituées, quand ton fils, moi j'aurais dit, quand mon frère arrive. Non ? Vous n'auriez pas parlé comme ça, vous ? Combien ce sentiment de perfection, de tout connaître et de le mettre en avant nous conduit d'une manière inévitable vers l'isolement, vers la séparation dans les relations et vers l'accusation. On peut pousser le chauffage si tu veux. T'as froid ? T'as qu'à faire les tes bras. Combien, quand je me sens parfait par rapport aux autres, vous connaissez l'histoire du pharisien hein, qui dit « Oh, je te loue que de ce que je ne suis pas comme ce pécheur. » Qui sort justifié ? C'est le publicain, pas le pharisien. Jésus met en avant cela. Mais combien, quand je vois et quand je considère l'autre imparfait par rapport à ce que je suis, ça m'amène dans l'isolement et ça me coupe du lien familial. Est-ce que tu comprends ça ? Je comprends pourquoi il n'arrive pas à rentrer, parce que c'est pas son frère, c'est le fils de l'autre. Il se replie, il se met en arrière. Vous comprenez ça ? Ça c'est terrible. C'est-à-dire que si tu as des problèmes peut-être de relation avec les autres, de considérer l'autre comme un vrai frère ou une vraie sœur, peut-être que tu considères l'autre comme inférieur à toi. Bah, je suis désolé, hein, vous secouez, mais le sentiment de perfection nous désolidarise de la famille. Mais quand ton fils, au lieu de dire, mais quand ton frère ? Quatrième point, la jalousie. Lui, forcément, le père tue le veau gras. Lui, il n'a même pas un chevreau. Ça vient de loin, ça. C'est un profond sentiment. La jalousie est un profond sentiment qui commence dans la comparaison. Là encore, comme quand je compare l'autre. Mais t'as vu, lui, il a ça. T'as vu, lui, il a ça. Combien j'ai dû lutter contre ce sentiment de jalousie, moi. Je ne sais pas si vous luttez contre ça. Quand on voit que quelqu'un réussit, ou quand quelqu'un grandit dans son ministère, ou quand quelqu'un, tiens, lui, il n'a pas fait grand-chose, et ça lui tombe du ciel. Non, c'est pas vrai ? Mais la miséricorde et la bénédiction ne dépendent pas de toi. Elle dépend de Dieu. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, où il veut. Non ? Et le problème, c'est que le fils aîné, là, il se la met à la place du père. Et quand un fils aîné qui a le syndrome du fils aîné, quand nous mettons à la place de Dieu. C'est à Dieu qu'appartient de donner ce qu'il veut à qui il veut. Comment osons-nous parfois remettre en question ce que l'autre a pu recevoir ? Et combien de croyants se nourrissent de ce qu'ils voient chez les autres et non de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont pour le Seigneur. Le Père lui dit bien, mais tu es tous les jours avec moi, fils. Mon frigo est ouvert pour toi. Fais ce que tu voudras. Et le sentiment de jalousie lui a empêché vraiment d'aller se servir dans le frigo du Père. Il est dans l'incapacité de prendre son droit. Le Père lui dit, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Malgré la présence de Dieu, malgré les promesses et les certitudes, beaucoup n'arrivent pas à saisir ce qui leur revient de droit en tant que fils et fille. Ne luttez-vous pas contre son sentiment régulièrement, non ? Vous lisez quelque chose dans la parole de Dieu, vous lisez une promesse et vous dites « c'est pas pour moi ça ». Non, jamais. J'ai une conversation avec quelqu'un hier et j'ai dit à cette personne « la foi ce n'est pas, je t'amène un plateau avec des victuailles ». Et la foi, ce n'est pas tu sens et tu regardes la nourriture. La foi, mon frère, ma sœur, c'est de prendre ta fourchette et ton couteau et de manger le plat que je donne. Or, que lorsque nous avons le syndrome du fils aîné, nous sommes incapables de prendre notre fourchette et notre couteau. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à aller chercher ce que le Père veut nous donner. Et nous ne nous nourrissons pas de ce que le Père veut nous donner. Alors que le Père nous dit, vas-y, nourris-toi, prends. Et puis nous sommes là, non. Oh, mais ça va, j'ai vu le plateau. Oh, ça va, ça a l'air d'être bon. Hein. Mais je n'irai pas manger. Est-ce que tu comprends que quand tu te places sur le parvis, tu vois au loin les choses. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint, là tu vis les choses. Et dans le cœur de Dieu, lorsqu'il dit à ce fils, viens, il insiste pour qu'il rentre. Il lui dit, viens mon fils, entre dans ma maison, réjouissons-nous ensemble. Ça déchire le cœur du Père de voir quelqu'un rester à l'extérieur comme ça. Non, ça va. Il y a le serviteur qui m'a dit ce qui se passait. Ah non, ça va. De toute façon, là-bas, c'est rempli de pécheurs. Hein. Ton fils, t'es sûr qu'il est propre, là ? Il sent pas le cochon ? Et puis, il y a le refus d'écouter. La mauvaise compréhension de l'amour, l'endurcissement. Et le besoin de reconnaissance que je passerai. Je vais vous raconter une histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais le dernier de ma famille. Mon papa, ma maman sont décédés. Mon frère aîné est décédé. Il avait 54 ans. 10 ans. C'était, je ne sais pas pour ceux qui étaient là ce jour-là, c'était le jour du premier culte dans cette assemblée, ici, dans cette salle. Je n'ai pas assisté au premier culte parce qu'on m'a appelé le matin de bonne heure et on m'a dit, ton frère est en train de décéder. Bon, c'est mes nièces qui m'ont appelé, papa est en train de mourir. J'ai laissé mes affaires, je suis allé voir mon frère. Et mon plus jeune frère est mort là, il y a un an et demi à peu près. J'ai eu un frère aîné. Et mon frère aîné s'appelait Didier. Et Didier, c'était l'aîné. Souvent, on se donne des surnoms, vous savez, dans les familles. Moi, c'était Zorro ou Nono ou Zorro, parce que je courais partout, je sautais partout. Mon petit frère était plutôt boulot, on l'appelait Boule. Je sais, c'est comme ça. Vous savez, dans les familles, des fois, on se fait plaisir, hein ? On y va. Et puis mon frère aîné, c'était Grand. Ça va, Grand ? Parce que c'était le grand frère. Et le grand frère, en fait, il a toujours essuyé les plâtres de l'éducation. Contrairement à Dieu qui nous éduque correctement, mon frère, il a été mais blessé par l'éducation. À tel point que... Je vais prendre des notes pour être sûr de ne pas oublier des choses. Pour vous dire... Il a vécu vraiment des différences dans sa vie. Qui d'entre nous n'a jamais vécu de différence dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, etc. Vous savez, ici, dans une église, on peut choper le syndrome du fils aîné. Hein. On peut sentir parfois des différences, non ? Hein ? Oh, le pasteur, il aime plus l'autre que l'autre. Oh, le pasteur, il passe plus de temps avec l'un que l'autre. C'est pas vrai ? Mais parfois, on fait une éducation, parfois, on fait des choses. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais parfois, on est maladroit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc, on peut créer parfois des différences. Et donc, mon frère a grandi dans le sentiment d'être différent de nous deux, des deux suivants. Il a été rejeté. Franchement, je peux vous le dire. Il faut voir, hein, lui, on ne lui a pas passé beaucoup de choses. Et ça a provoqué le syndrome du fils, en fait, aîné, chez lui. Un jour, je me souviens, il s'est converti comment ? Ben, le jour de notre baptême, Marise et moi, c'était à l'église de Roubaix, l'église baptiste de Roubaix. Nous témoignons de ce que Dieu avait fait dans notre vie, du miracle qu'il avait accompli dans notre couple. Mon frère était là. Je me souviens, il était à droite là, comme si j'y étais, je le vois encore. Et je l'ai vu pendant notre témoignage pleurer. Il donne sa vie au Seigneur, il se convertit. Ça, il a continué à grandir dans la foi. Il a continué à marcher avec Dieu, mais avec le syndrome du fils aîné. Vous comprendrez ? Il a touché à des choses de Dieu. Et puis, la maladie est venue. Il s'est chopé une saloperie. Et puis, lorsqu'il a appris que ses jours étaient comptés, il m'a appelé, il m'a dit, tu sais Bruno, mes jours sont comptés. Et là, sur le conseil de quelqu'un de l'église ici, je savais qu'il y avait des choses qui devaient être réglées. Donc je suis allé le voir à l'hôpital de Roubaix, je me souviens, c'était dans le secteur isolé, là, vous voyez, il faut mettre un masque, et puis c'était le Covid avant l'heure à l'époque. Et puis, je lui ai dit, il faudrait que je lui parle de tout cela, il faudrait que je joue un peu le rôle de ce père, vous voyez, qui va à l'extérieur, qui le ramène à l'intérieur. Je ne savais pas comment aborder les choses. Il y avait tellement... On avait des vieux dossiers, nous deux. Et je lui ai dit... Je me souviens avoir dit ces mots. « Eh grand !» Bah ouais. « Eh grand !» Tu n'as pas toujours rigolé dans la famille. Il m'a dit « Oui, j'étais l'aîné, j'ai essuyé pas mal de plâtre », m'a dit Bruno. Et puis, je lui ai dit « Ouais, papa et maman, ils ont été durs avec toi. » Il m'a dit « Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert de la différence. » Et là, je suis venu à quelque chose d'important. Et je lui dis « Et moi, je t'ai fait du mal. » Souvent, on pense bien faire. Mais il fallait bien que quelqu'un le dise, non ? Et puis il a parlé d'autre chose, mais c'est ça qui était revenu. Il m'a dit, tu sais, Bruno, je t'en ai voulu pendant des années. Mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu comprends, grand, il fallait que je te le dise. Je ne pouvais pas te laisser dans le brouillard comme ça, quoi. Et là, on s'est pris la main. Il s'est passé ce qui s'est passé dans cette histoire du fils aîné. Je ne sais pas s'il a fini par rentrer, l'histoire ne le dit pas. Mais là, je l'ai pris. Et je dis, si tu me pardonnes. Il me dit, oui, alors je te pardonne. On est rentrés ensemble. Et là, on est allé dans un moment comme jamais, j'ai rarement vécu dans de telles situations. On s'est mis à louer Dieu ensemble. On n'avait jamais réussi à le faire. Tout ça. Parce que le syndrome du fils aîné était guéri. Et le peuple de Dieu est malade de ce syndrome. Le peuple de Dieu est malade parce qu'il vit comme le fils aîné. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et il dit, mes enfants, venez, venez à moi. Mais ne restez pas sur le parvis. Entrez et venez vers moi et réjouissez-vous avec moi. Venez devant mon trône parce que c'est là où vous serez transformés. Alors, est-ce qu'il y a un remède ? Ouais, c'est reconnaître les symptômes. C'est pour ça que je vous ai parlé du symptôme. pour que vous puissiez reconnaître les choses. Il faut se laisser examiner par le Saint-Esprit et avoir le courage de laisser Dieu aller là où ça fait mal. En tout cas, les derniers temps m'a dit peut-être que je manquais d'amour. Et vous comprenez que pendant des années, j'ai été bloqué parce que j'osais, je n'osais pas aller voir quelqu'un et lui dire « Oui, ça ne va pas dans ta vie. » Vous comprenez pourquoi j'étais bloqué pendant des années? J'avais peur de nouveau de blesser les gens. Et j'ai pris mon courage à deux mains depuis une année maintenant. Je prends mon courage pour essayer de dire aux gens « ça ne va pas. » Et il est hors de question que je me taise. Hors de question que je dise « Ah oui, parce que j'ai peur de te blesser. » Tu pourras peut-être prendre ça pour le manque d'amour, mais c'est pas ça l'important. Le Père veut te ramener dans sa maison. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu ramènes mon peuple dans ma maison. Il faut détourner le regard que nous portons vers les autres afin de s'examiner soi-même. C'est la première des choses que nous devons faire. C'est trop facile d'aller regarder. Regardez-moi, faites la liste, vous allez voir. Elle sera longue, hein. Des choses qui doivent encore changer. Mais je vous rassure, hein. Vous avez une petite paille dans la vôtre aussi. Et se repentir, être capable d'entrer dans, pour se réjouir avec le Père. Le Père ne dit pas, mon fils, je vois que tu as besoin de guérison, mais mon fils, sois un fils et réjouis-toi. Et cesse de te morfondre sur toi-même. Alors la restauration, c'est le dernier, après j'arrête. J'ai pas été trop long. La restauration et la guérison viennent par la relation. Et la première relation que Dieu vous appelle à avoir, c'est avec lui. La première relation que vous devez bâtir, construire. Vous savez, je pourrais vous dire « Ah, bonne et heureuse année, bonne santé. » J'ai des difficultés avec ça. Voilà, la seule chose que je peux souhaiter, que je prie, ayez cette relation avec le Père. Ne cherchez pas à vivre votre foi par procuration avec quelqu'un d'autre ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Ayez cette relation. Et voici ce que le Père dit. Entre maintenant et réjouis-toi, car c'est possible de guérir du syndrome du fils aîné. Je vous le dis, c'est possible. Et vous verrez, quand on sera dans le royaume avec mon frère Didier, il nous le dira, je l'ai été. J'ai été guéri, c'est dommage, c'était à la fin de sa vie, mais j'étais guéri du syndrome du fils aîné. Ce qu'on va faire maintenant, on va se laisser visiter par le Seigneur. Et ce qu'on va faire, on va remettre. Peut-être qu'il y a quelques signes. J'espère que vous n'avez pas tous les signes. Ça se peut. Mais si vous avez 1, 2, 3, 4 signes, je ne sais pas. Peut-être vous l'avez. C'est le moment de dire. Et j'aime l'histoire du fils aîné. Pourquoi ? Parce que je sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Avez-vous déjà pensé à ça? Il ne dit pas qu'il est rentré. Il n'est pas dit qu'il est resté dehors. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu laisse toujours le choix. Et j'aime ça. C'est bien. Parfois, la Bible dit plus de choses qui ne sont pas écrites. Vous voyez? J'aime ça. Je vais vous inviter à vous lever. Et nous allons prier. On ne va pas prier pour votre guérison. On va prier pour que vous puissiez entrer. Parce que la guérison vient quand j'entre. Comprenez ça? C'est dans le sein du Père, dans le cœur, près du cœur du Père qu'on guérit. Donc on ne va pas faire de l'évangélique. On va faire du royaume des dieux. Et on va entrer maintenant dans la présence du Père. Père, tu vois mes signes de syndrome du fils aîné. Tu vois, Seigneur, comme j'ai besoin encore d'être guéri. Tu vois, Seigneur, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la poignée de la porte, de tirer un petit peu et de faire un pas avant et de se retrouver là. Et je prie pour que, pour tes enfants ce matin, je prie pour ton peuple, pas simplement ici, mais je prie pour l'Église, pour le corps du Christ, pour que l'Église guérisse de ce syndrome, pour qu'elle guérisse de ce syndrome du Fils. Et je prie, Seigneur, ensemble nous allons entrer maintenant, ce matin, dans ta maison, dans ton sein, nous y allons ensemble. Alléluia.